moi je prends un peu du mal au cachet oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est l'une de vos moitiés au Casangas. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, peut-être plus de maîtrise, disons, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, ce lundi l'émission est consacrée aux forces de l'ONU en marge de la Journée internationale des casques bleus célébrée cette année. Cette année, le thème de la journée est les opérations de maintien de la paix en tant que partenariat mondial. C'est depuis 2002 que l'Assemblée générale des Nations unies a décrété que cette date soit désormais la Journée internationale des casques bleus. La décision a été prise afin de rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi et servent encore dans les opérations de maintien de paix des Nations Unies en raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Cela fait plus de 10 ans que les forces de l'ONU sont en RDC. D'abord pour une mission de maintien de paix et actuellement en mission de stabilisation. Qu'attendez-vous des casques bleus? L'invité est Mme Aïssatou Labba-Touré, elle est chargée de la communication sociale au sein de la division de l'information publique de la MONUSCO. Titi Mpoutou, Pierre Lamégé et Dieudonné Nyangassa réalisent cette émission. Marie-Chantal Mba vous la présente.
Ils sacrifient leur vie au nom de la paix. Ils n'ont qu'un seul devoir, servir les peuples et les nations en conflit. Ils n'ont qu'un objectif, installer le dialogue et repousser les frontières de la violence. Rendons hommage à leur engagement. Le 29 mai, Journée internationale des casques bleus.
Parole aux auditeurs.
Notre invité se trouve avec nous dans ce studio. Bonjour, Madame Aïssatou Labba-Touré.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons échanger avec les auditeurs sur la mission même des casques bleus en RDC. Nous savons qu'ils sont plus de 19 000 casques bleus en RDC qui sont déployés presque partout, mais en grande partie c'est à l'est de la RDC. Dites-nous, en gros, c'est vrai qu'ils sont là. D'abord, c'était pour le maintien de la paix. Actuellement, c'est dans le cadre d'une mission de stabilisation de la RDC. D'une manière assez spécifique, quelle est la mission de ces casques bleus?
Je vous remercie beaucoup. Je vraiment remercie la radio Okapi de nous donner l'opportunité d'expliquer un petit peu cette tâche immense qui est celle des missionnaires de l'ONU. J'aurais levé les pivotes suivants, qui est que cette journée n'est pas seulement dédiée aux casques bleus, c'est-à-dire aux soldats et à la composante police et pénitentiaire, mais elle est dédiée à tous les missionnaires des Nations Unies,
militaires.
Voilà, c'est un petit peu ce qu'on oublie en célébrant cette journée-là. Donc elle est dédiée à tous les missionnaires, à tous les serviteurs qui travaillent au niveau des Nations Unies. Donc la présence onusienne en RDC est très large, pratiquement on peut le retrouver un peu partout au nord au sud, et malheureusement dans des endroits où effectivement, comme vous l'avez évoqué, il y a encore des troubles au Kivu, notamment. En ce moment, il y a une très forte présence à ce niveau-là, parce que le mandat de cette année, qui a démarré donc en juin 2011, et la résolution 1991, le mandat porte essentiellement sur la protection des civils. Donc il est normal et nécessaire que lorsque les civils sont touchés, lorsque les civils sont menacés, que des soldats de casque bleu se déportent vers ces zones où il y a le plus de troubles. Donc leur tâche consiste effectivement à protéger les civils. Très souvent, on nous reproche de ne pas intervenir quand il y a des accrochages entre les moutins, par exemple, et des FARDC. Mais notre tâche n'est pas de cela. Notre tâche est de prévenir ce genre de difficultés que les populations rencontrent lorsqu'effectivement ces accrochages ont lieu. On essaie de les isoler, on essaie de les entourer, de les protéger. Et donc, c'est essentiellement cette tâche qui est dévolue au casque bleu. Mais on n'intervient pas dans les accrochages, dans les...
Protection des civils, c'est assez large, mais de toute façon, les activités, c'est vrai que vous avez dit ça, c'est sur le plan militaire, mais vous avez dit que le casque bleu, c'est pas seulement l'aspect militaire, mais aussi l'aspect civil. Quelles sont les autres actions qui sont mises en place pour protéger essentiellement ces civils dans les zones où il y a encore des conflits armés?
Alors, dans ces zones-là, il y a des actions, évidemment, sociales qui sont menées, c'est-à-dire lorsque ces gens-là sont en difficulté, non seulement on les extrait, si c'est possible, ou en tout cas on les accueille dans des endroits un peu plus paisibles. Il y a des composantes, maintenant civiles, qui sont sur place pour les accueillir, pour les héberger, si cela est possible, pour les soigner, s'il y a des blessés ou des cas graves qu'il faut prendre en charge. Mmh. C'est ainsi qu'il y a tout un dispositif au niveau des Nations Unies, donc qui prend en charge l'aspect social et sanitaire des populations. Il ne faut pas oublier également que le mandat de cette année porte également sur les élections, sur l'appui que la MONUSCO doit donc apporter à la réalisation, au bon fonctionnement des élections, un appui technique, un appui logistique. C'était vraiment les deux pendant de notre mandat de cette année.
Et nous allons écouter nos auditeurs, ils vont nous dire ce qu'ils attendent des casques bleus, parce que c'est vrai qu'il y a ce mandat qui est spécifique, vous l'avez si bien expliqué. On va écouter nos auditeurs, ce qu'eux, ils attendent des casques bleus. Qu'est-ce qu'ils voudraient que le casque bleu fasse par rapport aux réalités qu'ils sont en train de vivre dans leur société? Et si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, que vous soyez connecté sur www.radiocapi.net ou encore que ce soit en SM, il suffit de composer le 081 869 69. Vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook dénommée Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Et nous commençons avec notre premier auditeur qui se trouve à Kananga. Bonjour, Maître Adrien.
Bonjour, Madame Marie Chantalomba, et bonjour à Madame l'auditeur.
Dites-nous, quelles sont vos attentes?
Merci beaucoup pour ce sujet fondé important. Je me remercie d'abord à rendre hommage aux casque bleu vraiment qui nous ont quittés, donc qui ont quitté la chair des Sommes par rapport à notre République. Je ne vais pas apporter dans le même sens que certaines personnalités de Kinshasa qui spécialement sont super du tourisme. Ça, sincèrement, c'est mal du respect envers cette grande mission des Nations Unies. À mon même avis, je pense que les Nations Unies ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont interposés parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine stabilité du côté des peuples. Mais mon souhait serait que le casque bleu puisse réduire simplement son effectif là où il ne se pose pas des problèmes, comme dans des villes de l'Ouest, pourquoi pas au centre, et envoyer tout ce casque bleu là où ça chauffe, je pense que c'est à l'est de la RDC. Mais vous dites, une autre remarque par rapport au casque bleu, c'est lorsque nous nous souvenons de l'incident qui a eu lieu à Kinshasa, lors des élections. Nous avons vu des casques bleus vraiment un peu plus près. Je ne sais pas. Ils avaient peur du gouvernement parce que c'était les militaires gouvernementaux qui réprimandaient la population civile. Or, ils sont venus pour protéger la population civile. Nous avons vu ça de film. Comment est-ce que la population civile est décédée? Donc, à ce point, divers hommes à Kinshasa, sans intervention des casques bleus. C'est là que nous considérons que nous, par rapport à ceux qui ont fait bon travail, en tout cas très bien, ce sont des humains, mais ils doivent améliorer pour être attentifs par rapport aux représailles de la population. On a dit de manière avancée, ce que je peux dire, c'est que je pense que le casque bleu, je pense qu'ils sont concentrés à l'est de la ville de la ville du Congo, qui pourront mettre en état de vie toutes les forces négatives et ceux-là qui qu'ils se conforment pas à notre respectif. Mais je pense qu'il y a un appel à ce monsieur-là que je ne veux pas citer le nom, qui pousse effectivement vraiment les propos de l'autre, qui sont des personnes qui sont des vraies fortes aux paroles que nous voyons avec lui, ça risque simplement de nous toucher à notre respectif, et nous n'avons pas qu'espérer avoir, donc, que c'était une relation puisse s'abîmer avec les
nations. Merci, merci maître Adrien de Kalanga. Nous allons écouter Jean qui se trouve ici à Kinshasa. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Marie-Chantal, bonjour monsieur à l'invité, bonjour Radio Capitale.
Vous avez la parole Jean.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole sur l'invité d'aujourd'hui. Nous tenons d'abord à remercier les Nations Unies à travers la MONUSCO avec le travail qui là-bas pour notre pays depuis plus de 10 ans déjà, je crois. Alors, le travail ici, c'est quand même d'une importance capitale, mais il y a toujours quand même des inquiétudes. Alors, je voulais, avant de donner certaines propositions par rapport au travail de la MONUSCO ici à Kinshasa, disons en RDC, je voulais poser à madame l'invité la question. Nous remarquons qu'à Syrie, il y a les gens qui meurent chaque jour de Syrie. On a déjà dénommé plus de 12 000 morts. Est-ce que là-bas, les Nations Unies ne peuvent pas envoyer les gens de la CAF pour intervenir, étant donné que leur mission, c'est de protéger les civils, tels que vous venez de le soulever. Alors, parce que là aussi, c'est quand même nos frères qui sont en train de périr chaque jour. Je reviens à notre pays. Plus de 19 000 casques bleus à Kinshasa. C'est une bonne chose, mais quand même, c'est un peu trop. Moi, je pense ceci, que le plus est formé. Les militaires et les policiers, bien sûr, ils les forment, mais ils ne sont pas en nombre. Parce que si on voit le nombre que la MONUSCO a déjà fait ici à RDC, si se mettait aussi à former chaque année, par exemple, 10 000 policiers ou 10 000 soldats, je crois qu'ils partiraient et que les Congolais eux-mêmes pourraient prendre la charge de la sécurité et de la protection de leurs civils eux-mêmes. Au lieu toujours de compter plutôt sur les étrangers, disons, la force. Alors, la situation aussi de l'Est, là, bon, parfois quand on a parlé, nous qui sommes un peu plus loin comme à Kinshasa, les gens pensent qu'on minimise d'ailleurs, on minimise. Mais chaque jour, les gens font des choses, j'étais à la rue. Il y a la MONUSCO là-bas, bien sûr, qui sont aussi un nombre important, mais c'est là, nos frères qui ont traversé la frontière, qui sont aujourd'hui en Ouganda, et puis au Rwanda, là-bas, surtout au Rwanda. Mais comment la MONUSCO est là et puis. Elle ne protège pas cette population-là qui se jette chaque jour à la rue, disons, via les diverses guerres. Mmh. Alors, pour terminer, je voulais aussi proposer à à Kinshasa, je vois qu'il y a beaucoup de casques bleus, mais le travail réel des casques bleus à Kinshasa, moi, je ne vois pas. Ils sont là, nombreux, mais ils aillent au lieu de services, bien sûr, c'est le siège de l'administration, d'accord. Mais que les bons nombres puissent aller là où il y a les problèmes.
Merci beaucoup, Jean. Merci, Jean de Kinshasa. Ernest, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour,
Maman. Oui, Ernest, vous avez la parole.
Merci bien. Je commence par féliciter d'abord le travail de la MONUSCO. Et puis, les collègues que nous avons connus, la Monique, avec beaucoup d'émissions qui changent à tout moment. Et félicitations à ces hommes qui se donnent corps et âme pour la paix en RDC. C'est simplement ce que nous regrettons. Nous avons l'impression ici, au niveau de la Conseil de sécurité des Nations Unies, on n'a pas accéléré le processus pour que cette stabilisation vienne vraiment et soit une réalité en RDC. Et c'est pour cette raison que nous constatons la présence de la MONUSCO qui est aujourd'hui de certains comportements de déboulement de la population civile qui semblent ne pas reconnaître l'activité ou la tâche réservée à la MONUSCO. Parce que lorsqu'on dit sa mission est de protéger la population civile, et cette population civile est victime des atrocités. Même si ce n'est pas la guerre partout à travers la République, mais il y a des comportements parfois qui laissent à désirer. Il y a dans certains points, c'est présenté en assise politique, de l'opposition, on trouve que ce n'est pas étonné à l'exploiter. La MONUSCO a beaucoup de services dans son sein, les services électoraux, les droits de l'homme, les services de santé, mais on sent par moments c'est comme si les actions à facteur difficile ou des faits qu'on pose en faveur de la population civile, ça vient par passe, comme les parents fait, comme si on ne veut pas faire quelque chose pour que la Monusco se perdure dans ce pays et pour que la paix soit plus fragile. Donc nous, les chrétiens, par moment, c'est que dans cette côte de l'Est, les gens sont contre la suite de la Monusco et on les attaque pour cette raison que nous demandons. Si la Monusco est dans son ensemble, sans revoir, sans politique, et accélérer le processus, les Congolais qui ont été de 50 ans soient capables de s'intégrer dans la salle. Donc, c'est un temps pour ceux qui présentent chaque mercredi, on donne un point de vue. Et si la Monusco donne le point de vue chaque mercredi, avec la radio capitale qui se dit par les informations, je crois que les Congolais, nous aurons des images ou des idées à travers la République, à chaque fois où on se trouve, bravo pour ça. Mais nous voulons que la Monusco puisse travailler, s'intégrer le pays. C'est la meilleure réponse du gouvernement pour que ce gouvernement soit capable d'assurer lui-même la sécurité de la population sans pourtant créer des mouvements fragiles pour que l'on soit en sécurité de la vie.
Merci, voilà. Merci beaucoup Ernest de Matadi, c'est dans le Bas-Congo. Christophe de Kindu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oui Christophe, vous avez la parole.
Oui.
Oui, allez-y,
moi, c'est par rapport au rôle de la Monusco, vraiment, c'est un coup de chapeau pour tout ce qui est en train de se passer. Mais moi, je voudrais ceci. Compte tenu de l'immaturité de nos dirigeants dans le pays, il faut que les Nations Unies arrivent aussi à donner à la Monusco le rôle ou bien la mission de gérer aussi l'administration de notre pays, puisque là, vraiment, ça ne va pas. Voilà, je n'ai vraiment pas beaucoup à dire. Outre la sécurisation de la population, j'aimerais que la Monusco arrive aussi à gérer l'administration publique, puisque c'est là où vraiment ça ne va pas. Vous voyez que parfois, lorsqu'on envoie l'argent aux militaires qui sont au front, cet argent est détourné. Et puis, ici chez nous, c'est c'est l'impunité. Hein, il n'y a pas moyen de dire un autre mot, c'est l'impunité qui va les plaindre. Alors moi, je crois que la Monusco aussi, elle pouvait arriver à s'intéresser vraiment à l'administration, ça serait une très bonne chose.
Merci beaucoup Christophe de Kindu. Pour vous, il faudrait également que la Monusco puisse encadrer, appuyer, renforcer les capacités dans la gestion, notamment dans l'administration publique. Merci Christophe. Nous allons demander à Arsène, qui se trouve à Bukavu, de pouvoir patienter un moment, le temps qu'on redonne la parole à notre invité pour qu'elle puisse réagir face aux avis des auditeurs. Arsène de Bukavu, sans oublier Tonton, qui se trouve à Arou. Soyez patient, vous allez intervenir tout juste après la réaction de notre invité.
Parole aux auditeurs.
Madame Aïssatou Labatouré, vous avez suivi nos auditeurs, ils ont constaté, ils ont félicité le travail de la Monusco, mais allons-y à leurs préoccupations. Par exemple, Maître Adrien, qui voudrait savoir à quel niveau les casques bleus peuvent intervenir, parce qu'il se pose des questions. Lorsque, par exemple, l'Allemagne donnait l'exemple, lorsqu'il y a une répression, il y a eu des manifestations, et puis la police est en train de mener des actions de répression face à ces manifestations, à quel niveau la Monusco, les casques bleus, donc les militaires de la Monusco, peuvent-ils intervenir? Et aussi, après nous allons revenir sur l'effectif, parce que déjà à l'introduction, nous avons dit que l'effectif, la grosse partie des casques bleus se trouve déjà à l'Est, donc c'est une réponse à sa préoccupation. Mais à quel niveau les casques bleus peuvent-ils intervenir lorsqu'il y a certaines répressions?
Mais tout simplement au niveau de la formation, c'est-à-dire à la base, au démarrage. Et c'est ce que je répondrai à tous, pratiquement, les auditeurs qui sont intervenus ici, en demandant quel est le rôle de la Monusco, qu'est-ce que la Monusco fait quand il y a des difficultés, etc. Pour
la préoccupation propre de Maître Adrien, je vais d'abord m'attarder sur l'hommage qu'il a rendu aux morts et pas aux personnes, au personnel des Nations Unies qui sont venus, ici comme ailleurs, et qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie. Je pense qu'on oublie également un petit peu ça dans cette intervention aujourd'hui. On essaie de voir les aspects négatifs, mais heureusement que tous ceux qui ont intervenu ici ont vu également les aspects positifs de la présence onusienne en RDC. Donc on rend hommage à ces casques bleus, à ces missionnaires de la paix qui sont tombés. Ils sont 112 cette année, depuis le début de 2011.
Des militaires, parce qu'il y a aussi des civils. Que nous avons perdu notre collègue.
J'ai bien dit missionnaires, serviteurs, les casques bleus confondus. 112 cette année qui sont tombés et une bonne cinquantaine, peut-être un peu moins, ici en RDC. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on ne va pas aller dans la polémique, mais certainement que ces gens n'étaient pas venus ici pour se tourner les pouces, pour ne pas utiliser d'autres termes.
Donc, en vous écoutant, les casques bleus interviennent. Avant, donc quand il y a par exemple une manifestation qui est recommandée, les casques bleus observent, ils ne vont pas intervenir à ce niveau-là. C'est un peu ça la question que je te pose.
C'est pas ça, c'est-à-dire
qu'ils doivent attendre.
Il y a un mandat qui est donné à la mission. Ce mandat-là est discuté avec les autorités du pays. Parce que c'est les autorités du pays d'abord qui acceptent la présence d'une mission. Une mission des Nations Unies ne peut pas venir s'installer toute seule dans un pays sans que les autorités en aient discuté auparavant avec et le Conseil de sécurité et toutes les autorités au niveau onusien. Vous savez que la RDC est également membre, je ne vous apprends rien, de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, toutes ces discussions donnent naissance à l'installation ou à la prorogation d'une installation de mission dans un pays. Ça veut dire que ces autorités sont d'accord. Mais dans la manière de mener cette mission, c'est là où on parle de mandat. Est-ce que dans le mandat de la mission, il est convenu que les casques bleus utilisent ou non des armes? Il y a des missions qui autorisent cela, où vraiment il n'y a pas d'autre moyen, parce que vous le savez, on ne peut pas rechercher la paix en utilisant des armes. C'est là où j'allais en venir. Quand il le faut, ils utilisent les armes. Mais c'est pas parce que on est là, on assiste à une manifestation, il y a des difficultés, on ne va pas aller jusqu'à au tir, etc. Il y a des difficultés, on va utiliser tout de suite les armes. Les armes seront utilisées quand ce sera décidé entre les Nations Unies et le pays. Mais on est là, et rien que cette présence-là, je peux vous assurer que c'est quelque chose, ça atténue un certain nombre de difficultés. Les inquiétudes, moi je les comprends, de la part des auditeurs, d'ailleurs ils sont tous revenus sur...
pour le cas des manifestations civiles avec la police, mais maintenant allons dans le cas concret, à l'Est, où il y a ces affrontements entre groupes armés, entre eux ou bien SRDC.
Je vais vous répéter ce que je viens de vous dire, tant que cet article 7 n'est pas évoqué, de la Charte des Nations Unies n'est pas évoquée entre le pays qui accueille la mission et la présence onusienne à son niveau le plus élevé, on ne pourra pas le faire. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays sans l'accord des autorités, sans leur consentement, sans leur appui. On ne peut pas.
Il y a aussi cette question de gens de Kinshasa. Il revient sur la situation en Syrie, mais il évoque cette situation-là. Donc, en d'autres termes, il voudrait avoir plus d'informations sur le processus d'envoi des
Vous avez suivi qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a un certain nombre de réunions qui sont en train de se tenir. Et également, c'est pour décider de quelle action mener. Il est vrai que très souvent, on pense que Nations Unies maintient après la mort. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut que le pays accepte. Il faut que le pays soit consentant pour que la présence onusienne puisse intervenir d'une manière ou d'une autre.
rencontre. Et il y a aussi cette question toujours de gens de Kinshasa. Il faudrait protéger davantage les civils, renforcer les capacités de la police et de l'armée. Et ça rejoint aussi ce que pense Ernest. Il a l'impression que le processus de stabilisation est un peu lent. Il justifie en fait certaines méfiances des populations à l'endroit de certains agents de la MONUSCO parce qu'ils ont l'impression que ça prend tellement du temps. Ils ne comprennent pas et ils pensent que c'est insuffisant.
C'est vrai.
Alors, face à toute cette préoccupation, quelle est la réponse que vous donnez à nos auditeurs?
C'est vrai que c'est insuffisant parce que la population du Congo, vous la connaissez mieux que moi, environ 70 millions, si je m'en dis, et 19 000 cartes bleues, pas à Kinshasa. Parce que Jean a parlé de 19 000 cartes bleues à Kinshasa. C'est tout l'étendue du territoire. Alors, c'est très peu pour faire face à tout ce qu'on connaît actuellement comme difficulté. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Tant que, je pense que ça, Kinshasa, Jean a une perception, mais pas de quelqu'un qui a Kinshasa. Mais ceux qui sont sur le terrain voient réellement ce que les casques bleus font sur place. La preuve, il n'y a pas deux semaines, en mi-mai, 11 casques bleus ont essuyé des tirs. Il y a eu des blessés. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas restés retranchés dans leur base, dans les bureaux, dans les véhicules, comme on dit. C'est des gens qui vont vraiment, si je peux dire, au casque.
Et que font les casques bleus à Kinshasa? C'est ce que pose la question des gens.
Il n'y en a pas beaucoup. S'ils venaient, par exemple, au défilé demain, puisque nous allons peut-être en parler de cette journée des casques bleus, ils verraient qu'il y a très peu de casques bleus présent à Kinshasa. Il y a le bataillon ghanéen et il y a peut-être quelques présences Bangladeshi, etc. Mais le plus gros de la troupe se trouve effectivement sur le terrain. Ce qu'ils voient et peut-être confondent, ce sont les policiers, ce sont les, on va dire, les éléments de l'unité pénitentiaire, etc. Mais il y a très peu de casques bleus à Kinshasa.
Avant de redonner la parole aux auditeurs, Christophe de Kindou, il souhaiterait que la MONUSCO puisse encadrer les agents de l'administration. Est-ce que c'est possible avec la mission actuelle? Parce que c'est vrai que l'une des missions de la MONUSCO, c'est la consolidation de l'autorité de l'État, la réinstauration d'un État de droit, et tout cela passe par toutes les structures administratives et politiques. Et quelles sont les actions de la MONUSCO dans ce domaine-là?
Vous l'avez dit vous-même, heureusement, vous citez la restauration de l'État de droit, donc qui est là pour appuyer les institutions judiciaires, etc., à se remettre un petit peu en forme du point de vue organisation, mais nous ne ferons pas l'insulte à la RD Congo de nous impliquer dans son administration en tant que telle. Moi, d'après
un encadrement.
Voilà. D'après ce qu'il dit, c'est vraiment que l'on vienne, qu'on prenne des administrations et que l'on fasse le travail des administratifs, etc. Je ne pense pas que ce soit là le rôle de la MONUSCO. Le rôle de la MONUSCO est de faire des formations avec des gens d'expérience venus d'ailleurs et d'encadrer donc ces gens qui en ont besoin, parce que je pense que la majorité des administratifs congolais sont capables de faire le travail qui leur est demandé.
Nous allons écouter Arsène de Bukavu, Tonton de Harou et Kabacha, qui sont également à Bukavu.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène.
Oui, bonjour Marie. Je présente encore mes condoléances aux Congolais parce que, au terrain là où on était, on a vu au niveau des boulettiers, on a égorgé plus de 40 personnes sous la barbe de la MONUSCO. On dirait même sous les compétences de la MONUSCO. On a tué déjà à Tchamboukia plus de 50 personnes. En Bingetay, là où la MONUSCO s'est trouvée avec ce soir-là,
parce que et j'apprécie l'intervention des députés nationaux Alphonse de Mileunga qui a qualifié le rôle de tous ces protégeants-là qui font des communales au Congo. Et moi, je l'appuie en tant qu'un activiste de développement sur le terrain. Donc, ce que moi j'estime, il fallait que la comité internationale veille de toute manière comment ils peuvent nécessairement sécuriser le peuple congolais. Parce que ce que nous voyons, ceux qui sont dans le terrain, même il y a un colonel de l'FARDC qui nous a dit, lorsqu'on était dans notre base, il nous a montré que c'est uniquement la complicité entre le gouvernement congolais et la monarchie pour tuer les Congolais. Parce que, si vous pouvez même me donner le langage d'interdire les sondages directs à la radio Papi, la population pouvait même témoigner. La Monisco a pris l'ex-ténère.
Oui, s'il vous plaît, Arsène.
Des armes de cornerback.
S'il vous plaît, Arsène. Oui, vous êtes en train de décrier une certaine situation. Vous êtes sur terrain, vous avez constaté tout cela. Mais la question d'aujourd'hui, qu'attendez-vous des casques bleus au regard du contexte dans lequel vous vivez, des témoignages que vous êtes en train de donner? Arsène, vous êtes avocat, vous avez vécu tout ce que vous êtes en train de nous raconter. Qu'est-ce que vous attendez des casques bleus, Arsène?
Je n'attends rien, Marie-Chantal Lumba, parce que ça fait une décennie que les casques bleus sont là. Quel est le changement? Quel est le changement? Il n'y a pas de changement. Tout le monde est à Kinshasa, vous ne pourrez pas l'être, c'est quoi? Qu'est-ce que ces gens font dans nos pays? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils manquent pour qu'on confonde leur rôle sur le terrain? Regardez au Burundi, il n'existe plus au Burundi. Leur mission, disons, oui, ça, pourquoi ne veulent pas quitter au Congo au moment où, quand ils vont entrer, les Congolais pensaient qu'il y aura l'espoir pour leur vie quotidienne? Mais d'ailleurs, il ne marche plus d'abord. Il existe plus la cour dans la vie de Bukavu. Il quitte ici, il va avec les portails, vous le voyez, il commence à être même joué ici, sous la base de nos autorités. Donc, moi je vois, pour les hauts, c'est uniquement une grande distraction à l'égard de l'FADC.
Merci.
Pour nous prouver la réalité.
Merci, Arsène. Merci beaucoup, Arsène, de votre intervention. Donc, pour vous, cela ne sert à rien que les casques bleus soient sur le sol congolais. Vous avez fait plusieurs allégations concernant les casques bleus, ce que vous êtes en train de nous dire. Nous remercions de votre intervention. Notre invité pourra répondre à cela au regard de ce qu'Arsène est en train de nous dire. Nous allons prendre Tonton et Kabacha de Bukavu, puis vous aurez la parole, Madame Aïssatou. Tonton de Haro, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Café.
Oui, Tonton, nous vous écoutons.
Oui, premièrement, je rends d'abord hommage à tous les casques bleus qui ont pu retirer leur âme dans le sol congolais.
Mmh.
Et en plus, je voulais juste demander à la dame, selon le statut des Nations Unies, qu'est-ce que le statut prévoit pour le renouvellement des missions dans un pays? Et Dédé, je voulais juste souligner la mission que les Nations Unies sont en train de réaliser en RDC pour le moment, celle de la sécurisation de la population. Mais on ne peut pas prétendre dire que non, on est en train de sécuriser la population au moment où on se sécurise soi-même. Et par là, je voulais dire, la population congolaise et en résidence surveillée, dans quel sens? Vous voyez, aux alentours du pays, et surtout chez nous à l'est ici, il y a des groupuscules de rebelles partout. Et la MONUSCO est en train de nous dire que non, la mission qu'elle est en train d'exercer est celle de la sécurisation de la population. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sécuriser la population qui est dans une résidence surveillée? Et vous marchez dans des voitures climatisées et vous vivez dans des conditions impeccables et la population ne bénéficie à rien de cette sécurisation.
Donc vous estimez que ce n'est pas suffisant, il faudrait faire davantage.
En tout cas, cette sécurisation que la MONUSCO est en train de prétendre réaliser, c'est une sécurisation qui est en défaveur de la population congolaise. dans quel sens? Vous verrez que non, partout où la MONUSCO se trouve, où il y a des bases logistiques vraiment qu'on ne peut pas croire qu'il y aura des guerres ou quoi, mais vous verrez que c'est dans des bases là qu'il y a des groupuscules de rebelles qui entourent maintenant le pays.
Merci, merci beaucoup. Nous avons tous entendu, donc en conclusion, vous estimez que les casques bleus de la MONUSCO n'arrivent pas à sécuriser correctement la population.
Exactement.
Merci
beaucoup. Nous ne voyons pas.
Merci beaucoup, tonton de Harou. Nous allons écouter Kabacha de Bukavu. Bonjour, Kabacha.
Bonjour, maman.
Oui, Kabacha, vous avez la parole.
Je suis le président de la radio au Capi. Et la mission de notre génie au Congo est gérant un débat hommage à tous les casques bleus disparus au Congo, Rwanda et partout dans le monde. Et je salue aussi leur intervention ici au Congo. Parce que les causes des casques bleus et le fait que des casques bleus au monde sont tout à fait lointaines. Je vais parler des regrets exprimés par le secrétaire général honoraire de l'ONU, M. Boutros Boutros Ghali, égyptien arabe marié à une juive à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU. Et quant à pour le cycle de vie de l'homme, c'est la pleine maturité et la pleine réussite. Paradoxalement, cette organisation a totalement échoué malgré quelques espoirs enregistrés par-ci par-là dans le monde dans son programme de métier de la paix, a-t-il déclaré M. Boutros Boutros Ghali. Cette organisation devrait enregistrer des succès de l'eau supérieure à la mesure de sa maturité exprimée par son âge. Cet échec s'explique par la démilitarisation de l'ONU. L'ONU n'a pas d'armée, ni de police, a-t-il indiqué. L'ONU ne dépend que des soldats fournis par des États membres pour le métier de la paix. Ainsi, la politique des États, surtout les plus forts, influe beaucoup sur l'organisation. Quoi de plus dire sur l'ONU?
Alors revenons en RDC, ça c'est d'une manière, s'il vous plaît Kabacha, s'il vous plaît Kabacha, ça c'est d'une manière générale. Revenons en RDC, à votre avis, quelles sont vos attentes pour concernant les actions des casques bleus en RDC?
Si je vais aboutir, je vais expliquer. C'est là que je vais aboutir. Parce qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la loi du plus fort qui règne, et cela influe beaucoup maintenant sur les casques bleus au niveau sur les pays dans lesquels ils sont envoyés. Ainsi, entre guillemets, M. Boutros Boutros Ghali avait aussi émis les vœux et créé en 1995 un Outland et un Soussiland. Et c'est là le problème du Congo, du Rwanda, du Grand Lac. Et c'était pour nous comme c'était un investissement de l'évasion du Congo par les Ibrahim, une utilisation du poids machiavélique de puissance internationale sur le Congo et dans le monde. Et d'ailleurs, je demanderai que le nom de M. Boutros Boutros Ghali puisse figurer une fois parmi les noms des héros en RDC dans le Grand Lac et dans le monde. Paradoxalement, au lieu d'être restitué, ce secrétaire s'est vu de remercier au premier mandat par le Conseil de sécurité de l'ONU par les États-Unis. Vite remplacé par M. Kofi Annan, le Ghanéen, alors secrétaire de l'ONU au département des métiers de la paix.
Oui, s'il vous plaît, Kabacha, est-ce que nous pouvons. Oui, est-ce que nous pouvons directement revenir à la situation en RDC avec la question centrale de notre émission? Qu'attendez-vous des casques bleus? En vous écoutant, vous avez des appréhensions que les casques bleus ne font que exécuter une mission avec en écoutant tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pouvez nous dire plus spécifiquement, on a quitté les généralités, allons dans le particulier en RDC, et vous êtes à Bukavu, quelles sont vos attentes, Kabacha?
Nos attentes, en tout cas, nous demandons cela que tout soit déréglé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que on ne comprend jamais qu'à l'ère actuelle que nous vivons, mais la loi du plus fort, parce que au niveau local, on ne peut rien régler, en tout cas, ça, et le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que l'armée même des États-Unis nous montre qu'il y a des armes tenues par INEC et par l'ETI, et de l'autre côté, il y a la nourriture, ce que nous vivons sur le Congo partout au monde. Et si nous régalons la mission de casquette, il y a du bien et il y a aussi du mal.
Et quelles sont vos attentes? Vous voulez que les. Parce que déjà, le Conseil de sécurité le Conseil de sécurité, on a prolongé le mandat de la MONUSCO jusque nous savons que ça va se poursuivre. D'ailleurs, notre invité pourra vous donner plus de précisions par rapport à cette prorogation jusqu'en 2012. Dites-nous, quelles sont vos attentes?
La prolongation des missions des Nations Unies, toujours, c'est dans le but des grandes puissances ici au Congo et partout dans le monde, comme l'autre a parlé de Syrie. On ne fait rien, mais il suffit que ça puisse se barder quelque part, des personnes puissent mourir. Il y a maintenant l'intervention des Nations Unies. Et ils interviennent pleinement par rapport ici au Congo, où ils disent qu'ils sont en train de protéger la population, mais réellement, c'est un effort et ils s'exercent. Le gouvernement, quand vous appelez un gouvernement qui ne fait que du mal, donc vous êtes complice.
Donc, à votre avis, vous n'attendez rien des casques bleus. Merci, Kabacha de Bukavu. Itona, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, c'est Itona, notre étudiant à Bounia.
Oui, vous avez la parole, Itona.
Oui, merci, maman. Ça, c'est la première fois que je me réagis, c'est vraiment, je vous remercie.
Mais
la toute première chose, nous félicitons d'abord les casques bleus de la MONUSCO pour le maintien de la paix en RDC et particulièrement pour les cas de Ituri. Vous savez, pendant les hostilités en Ituri, les casques bleus avaient intervenu d'une manière satisfaisante. Alors, ce qui est un peu décevant, c'est le mandat de la protection des civils. Pourquoi? Parce que parler aussi d'un autre mandat seulement, c'est occasionné sur la protection des civils. Et si, par exemple, pendant les hostilités de l'Italie, et les contingents français avaient agi d'une manière pratique, c'est eux qui étaient là pour traquer les rebelles. Mais pourquoi pas aujourd'hui les militaires, les casques bleus, ne passent pas un tel acte pour le mandat actuel, au lieu de protéger seulement les civils? Alors, à l'aide du mandat de protection, de maintien de la paix à la stabilisation, pour moi, je vois que ce n'est pas
c'est
vraiment correct. Parce qu'on n'a pas encore stabilisé la RDC en général. Il serait un peu difficile d'aller à la stabilisation avant d'abord le maintien de la paix. Selon moi, vous allez d'abord maintenir la paix partout en RDC, et après vous savoir maintenir la paix pour que les gens stabilisent ce que c'est là.
Merci, Tony. Merci beaucoup. Merci, Tony. Nous vous remercions, Tony, de votre intervention. Notre invité vous a écouté. Nous allons aussi lui accorder la parole pour qu'elle puisse réagir face aux avis des auditeurs. Entre-temps, je vais lire quelques messages. Jackson Massoun nous écrit ceci. Pourquoi cette célébration alors que nos frères et sœurs sont en train de souffrir sous la barbe de la MONUSCO à l'est de la RDC? Karel Mogwa, nous attendions la paix comme ils prétendent, mais curieusement, plus d'une décennie, la RDC n'a toujours pas retrouvé la paix totale. Je suggère d'abord leur départ afin de voir si la situation sécuritaire va s'améliorer. Sadati Hassani, ils ont échoué à leur mission en RDC car la population de l'Est souffre en leur présence. Nicolas Louboya, nous devons reconnaître le rapport malgré quelques failles. Ils ont apporté un plus dans le bien-être de la société congolaise. Les autres sont même morts sur les champs de bataille. Patrick Malemo, qu'attendez-vous des casques bleus? Quelles questions? Leur départ, bien sûr. Nous avons également Ramazani Marco Facha Guzira. Pourquoi les casques bleus prolongent leur mandat en RDC alors qu'à l'Est, les choses ne marchent pas? Pascal Ntalania, d'abord, quel est le bilan des casques bleus en RDC? Que peut-on dire de Jules Moutebouti, Laurent Kunda, Bosco Taganda, Maïmaï, FDLR? Je ne pense pas attendre quelque chose tant que nous n'aurons pas toute la vérité sur les malheurs de nos frères du Kivu. Jean-Louis de Kinshasa reste en ligne. Étienne de Guémena, le temps que notre invité puisse réagir face à tous ces avis de nos auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Et comme vous le savez, c'est Madame Aïssa Toulaba Touré qui est chargée de la communication sociale au sein de la division de l'information publique de la MONUSCO qui est notre invitée. Deuxième série d'auditeurs pour certains d'entre eux. Il n'est pas nécessaire que les forces de la MONUSCO restent en RDC. Pour d'autres, il faut qu'ils restent, mais il faut qu'ils puissent renforcer leurs actions. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup. Ce que je remarque, en tout cas, c'est que au début de chaque intervention, il y a quand même des remerciements, des félicitations, les hommages aux morts, etc. Ça veut dire que cette présence, quelque part, est ressentie.
en bien, parfois, en mal, d'autres fois, mais elle est quand même ressentie, elle n'aime diffère pas les citoyens congolais. Et c'est, je pense, ça qu'il faut mettre en avant. Est-ce que si la MONUSCO, les Nations Unies n'étaient pas intervenues, on n'aurait pas eu une situation plus difficile? Parce qu'il faut se dire que les guerres ne sont pas menées par les Nations Unies. Elles ne prennent pas naissance du fait de la présence ou non des Nations Unies. Elles prennent naissance tout simplement parce que c'est dans la nature de l'homme, c'est dans la nature, c'est pas de la manière de gérer une société qu'il existe des clashs qu'il faut maintenant gérer. La sécurité, ce que je voulais dire par ailleurs également, la sécurité d'un territoire, d'un pays, est d'abord de la responsabilité des autorités de ce pays-là. Ce que d'autres peuvent venir faire, que ce soit les Français en détourie ou nous autres actuellement, ce que nous venons faire, c'est de l'appui. C'est une présence qui peut faire que les choses ne soient pas exagérées, ne s'élargissent pas, ne s'étendent pas. Voilà, nous ne passons pas tache d'huile. Moi, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, les sentiments des uns et des autres, c'est des avis des citoyens, ils sont très libres de le dire. Notre présence, inutile ou non, c'est des sentiments. Nous n'en avons pas, nous ce ressenti-là. Nous pensons que si les Nations Unies sont ici, c'est d'abord de la volonté du peuple congolais.
C'est le peuple d'autorité congolais.
Le peuple congolais. Parce que les autorités représentent le peuple congolais. L'Assemblée nationale a son mot à dire, le Sénat a son mot à dire, le gouvernement a son mot à dire. Donc cela, si le peuple congolais reconnaît qu'il les représente, le peuple congolais donc est également dans ce processus-là de la reconnaissance de la présence des Nations Unies au Congo.
Et qu'est-ce que vous dites alors à Arsène, parce qu'il y a plusieurs allégations, les casques de complices, les casques de capteurs, les groupes armés, qu'est-ce que vous dites?
Ils ne peuvent pas être complices, on ne peut pas sourire d'une situation pareille, mais franchement, si c'était ça le rôle des Nations Unies, alors vraiment on forme tout de suite. Et je pense que le monde entier ne regarderait pas les Nations Unies à agir de la sorte. Ce sont des sentiments de citoyens qui ont leur propre analyse par rapport à des faits qui sont là, qu'on voit. Mais je pense que cette conclusion-là ne peut pas tenir. Si nous allons au bout des arguments, on ne peut pas dire que les Nations Unies viennent pour être complice de tueries. Cela n'est pas possible, c'est une organisation qui œuvre pour la paix. Quand on dit qu'on ferme des missions, en donnant l'exemple par exemple du Burundi, je vois que nos auditeurs ont une connaissance très élargie des Nations Unies, cela veut dire que ça les concerne, ils sont intéressés par les Nations Unies. On n'a pas fermé au Burundi, il y a BNIB, il y a un bureau de consolidation de la paix, parce que comment il n'y a plus de présence
militaire,
on va dire, mais il y a une présence civile, il y a des observateurs militaires qui sont là-bas et qui font que effectivement des situations politiques sont gérées par la médiation de la présence onusienne qui est là-bas. Parce que ce que nous constatons souvent, c'est que lorsqu'une mission de maintien de paix se retire et il n'y a plus rien, les troubles reviennent. C'est ainsi que ils sont maintenant remplacés par des bureaux de consolidation de la paix qui font de l'intermédiation entre les partenaires politiques et les populations, etc.
Vous allez écouter les deux derniers auditeurs, comme ça vous allez revenir pour conclure. Jean-Louis, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame.
Oui, Jean-Louis, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup madame, tous les auditeurs de la France. Je suis très félicité de tous les connaissances qui se défendent par la dame. Moi, je vais juste parler d'un point. Je me rappelle, je crois qu'en 2008, la force, les décastes blés, ils ont voulu intervenir. Bon, ils ne sont pas intervenus dans une action à l'est du pays, pendant qu'il y a encore des troubles à l'est. Ils ont dit que nous sommes une mission d'observation et non d'intervention. On se pose des questions. Ils observent quoi? Et après avoir fait ces observations, qu'est-ce que cela va aboutir? Qu'est-ce que cela va donner à cette population qui est en train de patauger dans une situation problématique? Les se sont venus en RDC. C'était juste pour nous aider, pour apporter un plus avec nos militaires congolais. Mais nous voyons à l'est du pays, au moment où je vous parle ici, il y a des milliers de gens qui sont en train de de fuir leurs habitations pour se cacher au Rwanda, à Goma, même à Bunia. Mais on n'a pas dit le nombre de la population, des populations civiles qui sont gardées dans les camps des Onésiens, qui sont protégées par les Onésiens. Ils sont là. Qu'est-ce que faire aussi au fait pour cette population qui est en train de fuir et abandonner leur habitation? Et au moins, ça, c'est des préoccupations que j'ai fait.
Merci Jean-Louis. C'est branché sur la 103.5 FM, la fréquence de Radio Capia Kinshasa. Notre invité va répondre à vos préoccupations. Étienne de Guémena, bonjour.
Ah, bonjour Radio Capia, bonjour à tous les auditeurs.
Oui, vous êtes le dernier auditeur de cette émission, de ce jour. Et dites-nous, quelles sont vos attentes?
Ok, merci madame. Avant de donner l'attente, je voudrais d'abord passer en revue ce que je viens de dire, l'invité, parce que je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, et aussi mes prédécesseurs qui ont intervenu. Madame, à mon avis, je pense que le bilan de la MONUSCO est mitigé, à mon avis, parce que MONUSCO qui hier était MONUSCO, aujourd'hui MONUSCO, sur le plan humanitaire, nous pensons que les cas sociaux, quand même, la MONUSCO intervient et donne une solution. Mais c'est comme la MONUSCO acquise une compétence ou une certaine capacité à ce qui concerne la mission de la paix. Parce que, comme vous imaginez, les assaillants sont en train de tuer à l'est des pays, comme je l'ai dit, mes prédécesseurs, au vif et aussi de la MONUSCO, à quelques kilomètres même, là où se trouve le siège de la MONUSCO. Mais là, on se demande, parce que nous savons que la MONUSCO, c'est un organe censé sécuriser, parce que ce ne sont pas les moyens de défense qui leur manquent, parce qu'ils sont lourdement armés. Mais comment expliquer les assaillants peuvent opérer, peuvent. Parce que, il y a autrefois, on parle de mission ou alors de mission changeante, oui. Monusco et
l'autre est là. Vraiment, Étienne, on s'excuse beaucoup. S'il vous plaît, Étienne, on s'excuse beaucoup de pouvoir vous interrompre parce que nous cheminons vers la fin de cette émission. Le temps qu'on redonne la parole à notre invité pour réagir à cette dernière série d'auditeurs. Blaise Ilitch Kalimba, il nous écrit ceci. Je trouve que si on célèbre cette journée, nous serons en train de nous moquer de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'est de la RDC. Elie Barouane, nous sommes fatigués avec les agents de la MONUSCO. Ils doivent quitter carrément notre pays car leur présence au Congo ne fait qu'augmenter la dette du pays. Un avis partagé avec Boniface Amissi depuis Bukavu. Donc madame, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez environ 4 minutes pour pouvoir conclure cette émission. Encore une fois, nous avons eu ces dernières séries qui sont carrément hostiles à la MONUSCO. Ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Quelle est votre réaction?
Écoutez, une réaction de compréhension de la situation dans laquelle ces populations qui se trouvent dans des troubles sont, de compréhension et de ce que les Nations Unies peuvent faire, malheureusement pas beaucoup. Ce sur quoi je voudrais d'abord revenir avant d'aller sur ce point-là, c'est que à deux reprises, il est revenu qu'on comprend la célébration de la journée des quatre foules comme une fête. Cela n'est pas une fête, une célébration peut être une commémoration. C'est une manière pour nous autres qui sommes là, qui sommes encore en vie, qui continuons à travailler pour les Nations Unies et les populations pour lesquelles nous sommes là, malgré tout ce qui est dit, donc de communier ensemble, de nous retourner, de voir ce qui a été fait, en mal ou en bien. Si c'est en mal, on essaie de recadrer, c'est la raison pour laquelle chaque année, le mandat est reformulé. Le mandat est reformulé de cette manière. Il y a quelqu'un qui l'a posé cette question-là. Comment on fait pour que les missions des Nations Unies se maintiennent, se poursuivent, etc., sont prorogées. Le secrétaire général des Nations Unies présente un rapport à la fin de chaque mandat. Ce rapport met vraiment tout ce qui se passe comme situation conflictuelle.
Tout ce que la MONUSCO va aller jusqu'à
juin 2012, on va y être là dans un mois. Dans un mois, le secrétaire général des Nations Unies va présenter un rapport sur la situation au Congo. Et ce rapport est présenté au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité entend et la présence donc au Congo, c'est-à-dire la MONUSCO, et entend également le partenaire essentiel qui est le gouvernement, qui est le gouvernement qui va être représenté parfois même au plus haut, n'est-ce pas, de sa représentativité, parfois
chef
les chefs de l'État qui vont pour défendre les ambassadeurs, les ministres, etc. Donc, tout ce monde-là a son mot à dire sur l'arrêt ou la prorogation d'un mandat. Donc, ça ne, ce n'est pas unilatéral. Les Nations Unies ne décident pas. Le Conseil de sécurité ne décide pas. Prend une résolution à la fin de toute une série de discussions autour de la situation de ce pays-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Nous ne venons pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, nous poser dans un pays. Non. Mais ce que je peux dire également, c'est que en tant que africaine, je ne souhaiterais pas qu'il y ait une mission de maintien de paix dans mon pays, parce qu'une mission de maintien de paix, ça veut dire qu'il y a des difficultés dans ce pays-là. Il faut reconnaître qu'il y a des difficultés au Congo, que nous tous, Nations Unies, autorités, etc., essayons de résoudre. On ne peut pas avoir des solutions du jour au lendemain, parce que la paix est ça. Une fois que les armes sont rentrées, une fois que les gens se sont accrochés, Il est difficile de remettre de l'ordre dans tout ça.
Donc c'est assez difficile. Un dernier mot, la journée des 4-2, demain vous allez la célébrer. Donc, vous avez suivi tous nos auditeurs. Un mot pour nos auditeurs?
Mais nous les invitons à venir voir. C'est pas une faute. Il y a la cérémonie officielle où les autorités viendront dire leurs sentiments sur le travail de la MONUSCO. Le représentant du secrétaire général dira également lui-même son mot. Il y aura un défilé de toutes les
composantes.
En communion, les populations sont invitées à aller à Aïtatel voir ce que les policiers font.
Merci beaucoup, madame. Nous remercions également tous nos auditeurs. Nous allons nous retrouver demain à tout sur celle dans d'autres villes de la RDC. Les autorités politico-administratives font la chasse aux vendeurs installés le long des routes ou à des parcours. Que proposez-vous pour encadrer ces vendeurs? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet ca@radiocapu.net. Merci à toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Foutou, Kéroé Lamézé de Dominique Angasta. Entre-temps, restez branchés sur Radio Tapis pour la suite de ce programme.